Chers auditeurs, on peut dire, me semble-t-il, que les trois évêques dont nous avons parlé la dernière fois, Claude de Rueil, Raymond de Montaigne et François Fouquet, furent de 1620 à 1643 des évêques de transition. Ils restèrent peu de temps à Bayonne, 6 ans pour les deux premiers et 4 ans seulement pour le dernier. Ils ont assuré la transition entre deux évêques basques de la même famille, Mgr Deschaux de Baïgorry et Mgr Dols d'Ioldi, oncle et neveu. La transition entre deux styles de pasteurs, Mgr Deschaux, qui s'inspirait du modèle traditionnel d'évêque gallican, quoique très respectueux du pouvoir du pape, et son neveu, Mgr Dols, très soucieux d'appliquer les directives du Concile de Trente, à la suite d'ailleurs de Mgr Fouquet qui avait initié les Bayonnais à cette manière nouvelle d'exercer le ministère épiscopal. Devenu archevêque de Tours, Mgr Deschaux avait appelé auprès de lui son neveu, et celui-ci était chanoine de la cathédrale de cette ville quand il fut promu à l'épiscopat à l'âge de 27 ans. Il fut nommé évêque de Boulogne-sur-Mer, un évêché tout récent et qui ne faisait guère d'envieux. D'ailleurs, le roi Louis XIII, en le nommant, lui promit, dit-on, de lui en donner un meilleur. Ce diocèse meilleur se fit attendre 10 ans. En juin 1643, Mgr Dols fut nommé évêque d'Agde, un évêché fort bien doté, quoique le plus petit de France avec seulement 19 paroisses. Mais 2 mois après, on apprenait qu'il était nommé évêque de Bayonne et qu'à sa place, c'était l'évêque de Bayonne lui-même, Mgr Fouquet, qui devenait évêque d'Agde. Pourquoi cette permutation, qui sur le plan humain n'était pas à l'avantage de Mgr Dols? Sans doute faut-il en chercher la raison dans le mal du pays que Mgr Dols éprouvait loin de sa basse Navarre natale et aussi peut-être dans les encouragements que lui adressaient les membres de sa famille pour qu'il revînt au Pays basque. Quoi qu'il en soit, Mgr Dols prit possession de son siège à Bayonne le 21 avril 1644. Dès que sa nomination fut connue, le corps de ville, c'est-à-dire la municipalité, lui fit part de sa joie de l'avoir comme évêque. Il est vrai que le duc Antoine de Gramont, l'ennemi juré de son oncle, n'était plus là. Et jamais le corps de ville ne se départit de cette attitude de respect, et l'évêque, de son côté, va lui témoigner toujours sa bienveillance et lui prêtera même son concours dans les affaires que les magistrats municipaux avaient à traiter. La paix, la douceur, la conciliation seront les traits fondamentaux de sa personnalité. Arrivé à Bayonne et dès qu'il eut occupé son évêché, Mgr Dols entreprit de compléter les travaux de son prédécesseur par l'aménagement au palais épiscopal d'appartements dignes des hôtes qu'il était appelé à recevoir. Nous l'avons vu, même si les deux royaumes se font souvent la guerre, les liens du sang unissent les deux familles royales de France et d'Espagne. Bayonne devient pour celle-ci un lieu privilégié de passage et de rencontre, et l'évêché est la résidence la mieux adaptée à l'accueil de têtes couronnées. Quelques années plus tard, Mgr Dols devait se féliciter d'avoir pensé assez tôt à l'aménagement de son palais. En effet, le 3 février 1660, de Toulouse, où il se trouvait de passage, Louis XIV adressait aux judas et aux échevins de Bayonne une lettre pour les informer du traité de paix signé 3 mois plus tôt entre les deux royaumes et aussi de son projet de mariage avec l'infante d'Espagne. Louis XIV leur annonçait également son passage à Bayonne au cours du voyage qui le mènerait à Saint-Jean-de-Luz où devaient avoir lieu les cérémonies de son mariage. L'entrée solennelle du roi à Bayonne eut lieu le 1er mai 1660. Il alla loger à l'hôtel du Sieur de Chorando, à la rue d'Orbe, et Monseigneur Dols mit son palais épiscopal à la disposition de la reine-mère. La cour demeura une semaine à Bayonne. On partait ensuite pour Saint-Jean-de-Luz et le roi y arriva le 8 mai. Il devait y demeurer un mois. C'est le 3 juin qu'eut lieu le mariage de Louis XIV avec sa cousine Germaine, Marie-Thérèse, fille de Philippe IV d'Espagne et de sa tante, la princesse Élisabeth, qui s'était arrêtée, on se le rappelle, à Bayonne en allant en Espagne pour son mariage. La célébration, c'est-à-dire l'échange des consentements, eut lieu non pas à Saint-Jean-de-Luz, mais à Fontarabie, de l'autre côté de la frontière. Ne pouvant se rendre personnellement en territoire étranger, Louis XIV avait donné procuration à Louis de Haro pour consentir en son nom. Le mariage par procuration était reconnu comme valide par l'Église et l'est encore aujourd'hui. Ce fut l'évêque de Pampelune qui reçut les consentements des époux après avoir obtenu du Saint-Père la dispense des multiples empêchements de consanguinité qui faisaient obstacle à cette union. Pourtant, 6 jours après, le 9 juin, eut lieu en l'église de Saint-Jean-de-Luz une autre cérémonie en présence des nouveaux époux et de toute la cour. Cérémonie qui sera appelée improprement le mariage de Louis XIV. Les époux royaux n'avaient pas reçu la bénédiction nuptiale à Fontarabie. Elle la leur sera accordée au cours de la messe solennelle célébrée à l'église de Saint-Jean-de-Luz par Monseigneur Dols, évêque de Bayonne, qui bénira également les alliances. La cérémonie donna lieu à un incident provoqué par une question de préséance. Des bancs avaient été prévus pour les évêques présents. En face d'eux, ambassadeurs et ducs devaient rester debout pendant la messe. Se sentant offensés, ces derniers firent intervenir Mazarin pour faire enlever les bancs des évêques, ce qui fut fait. Et les évêques, déjà installés, durent se lever. Et ils ne purent faire revenir Mazarin sur sa décision, ni persuader Monseigneur Dols de refuser de procéder à la bénédiction nuptiale. Ils quittèrent l'église et il ne resta plus que les évêques à qui leur charge personnelle assurait un rang à la cérémonie. Sur le chemin du retour, le cortège royal s'arrêta encore à Bayonne. Un tédéum d'action de grâce fut chanté à la cathédrale et Monseigneur Dols prononça la harangue de circonstance. Le couple royal passa la nuit au palais épiscopal et le lendemain, après avoir entendu la messe à la cathédrale et reçu de nouvelles protestations de fidélité de la part du corps de ville, les souverains prirent la route de la capitale. Si Monseigneur Dols fut ainsi mêlé de près à un événement de nature politique concernant le royaume, c'est à plusieurs reprises qu'il eut à prendre part, dans son diocèse, à la vie séculière de ses ouailles. Le corps de ville recourait volontiers à lui pour des interventions auprès du pouvoir central. Une question qui agita beaucoup le labour en cette moitié du XVIIe siècle fut l'introduction de la gabelle, cette fiscalité honnie de tous, qu'on voulait également imposer dans cette province si jalouse de son autonomie fiscale. L'attitude de l'évêque était d'essayer de faire comprendre à ses diocésains qu'il ne servait de rien de s'opposer par la violence à la volonté du souverain. Mieux valait négocier. Et en 1664, on écrivit donc au roi pour lui rappeler que Bayonne avait fait toujours preuve à son égard d'une parfaite fidélité, en particulier au temps de la Fronde. La ville avait également consenti des dépenses considérables pour le mariage du roi. On pouvait par conséquent s'étonner qu'elle soit frappée maintenant d'un impôt aussi lourd. Le roi finit par se rendre aux arguments du corps de ville et la gabelle ne fut pas établie à Bayonne. Monseigneur Dolz intervint également dans un différend qui opposait le Bilsard aux représentants du roi à propos d'une interprétation et d'une application divergente de la coutume du labour. Différend qui provoqua une sorte de mini-guerre civile entre Chabelchouri et Chabelgorry. L'intervention de l'évêque ne fut pas suffisante pour apaiser les esprits. Le conflit fut réglé par un décret de Louis XIV au cours de son séjour à Saint-Jean-de-Luz, décret dont les protagonistes n'avaient certainement pas prévu la conséquence. Il provoqua simplement une plus grande emprise du pouvoir royal sur le Bilsard. La prochaine fois, nous verrons l'action proprement religieuse de Mgr Dolz dans son diocèse.